Nathalie Janson, bonjour et bienvenue.
Bonjour Nicolas.
Professeur à Neoma Business School, une experte courageuse qui a réussi à venir nous retrouver malgré le pont du 14 juillet. Et Emmanuel Lechypre, bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue. Éditorialiste à BFM TV, RMC, BFM Business et il pilote l'observatoire BFM Business. À 2% le livret, est-ce que ça vaut le coup d'y mettre des sous, Emmanuel? Parce que... Alors sinon, la plupart des gens ont le réflexe compte courant. Que 2, c'est mieux que 0.
Bah, c'est ça, voilà. C'est tout bête, mais effectivement, 2, c'est mieux que 0. 2, c'est mieux que 0. Non, on voit que, effectivement, pour. C'est quand même un placement qui est très particulier. Vous ne pouvez pas comparer le livret A uniquement sur la base des critères traditionnels comme le rendement, etc. D'ailleurs, on voit bien, objectivement, quand vous faites la corrélation entre la rémunération du livret A et la collecte, vous voyez que ça déplace pas des mouvements absolument considérables. C'est qu'il y a autre chose derrière le livret A. Il y a effectivement cette idée que c'est quasiment comme un compte courant. Et c'est comme un compte courant,
oui,
parce que finalement, il n'y a pas de frais. Vous pouvez retirer l'argent comme vous voulez. Et donc, c'est effectivement 2, c'est mieux que 0. Ensuite, moi, je pense que dans la période d'inflation qu'on connaît, il y a des tas de Français qui se disent « je vais peut-être devoir payer plus cher, etc. » Donc, je me mets un peu d'épargne de côté. Donc, je la prendrai sur mon livret A. Donc, ça a un côté pratique. Et puis, objectivement, si vous êtes davantage sur une logique de placement, aujourd'hui, quels sont les placements qui, immédiatement, ont envie qu'on se jette dans leurs bras? C'est-à-dire, quand vous regardez ce qui se passe sur les marchés boursiers, vous vous dites, c'est un petit peu risqué. Quand
légèrement, vous avez des tas de prévisions, sans doute pas terminé. Hein,
quand vous avez des tas de prévisions un peu apocalyptiques qui vous disent, oh là là, quand vous mettez le cocktail, croissance qui ralentit, pétrole qui flambe, dette record, liquidité record, etc., ça va nous fabriquer une espèce de crise dantesque, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je pense que comme solution d'attente, pour le moment, ça n'est pas si peu compétitif que ça.
C'est Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui, il y a 48 ans, considérait que ce cocktail-là que vous évoquez, ça pouvait effectivement, les nuages pouvaient virer un petit peu à l'ouragan, et que probablement, les corrections de marché ne sont pas terminées. Même si, dans bien des cas, pas mal d'observateurs considèrent qu'elles ont été salutaires. On parlera d'ailleurs, avec Nathalie, de la correction qui continue dans l'univers des cryptos.
Le livret A, non, juste pour terminer. Oui. Et après, il y a l'aspect négatif, qui est que, un, ça coûte aux banques.
Ah, bah oui.
Les banques, elles n'aiment pas du tout.
Ah bah, voilà. Et puis deux,
mais ça, vous ferez pas pleurer dans les chaumières, Nathalie.
Non. Et puis deux, le financement du logement social, ça se fait quand même à partir du livret A, donc ça veut dire que ça coûte plus cher de financer des logements sociaux.
Oui, les bailleurs sociaux et d'ailleurs les collectivités locales empruntent auprès de la Caisse des dépôts qui centralise 60% de la collecte du livret A. D'ailleurs, le livret A a un peu remplacé Dexia, qui était la banque des collectivités locales, dans son fonctionnement, parce que le logement social a pas vraiment des problèmes de financement alors que les collectivités ont des besoins. Ou là, je rajouter un mot sur le livret A, Nathalie Janson.
Je dirais même que c'est mieux que les comptes courants parce qu'il n'y a pas de frais, justement.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas du compte courant.
Ah, c'est vrai.
Voilà. Absolument. Donc, c'est comparativement, c'est un peu plus que deux, puisqu'on n'a pas les frais. Et effectivement, quand on écoute les analyses des spécialistes du marché, et notamment sur BFM, ils vous disent tout le temps qu'il faut rester liquide.
Ah oui.
Le livret A, ça ne vous rémunère pas, ça ne vous protège pas contre l'inflation, mais c'est en effet extrêmement pratique et c'est très ça correspond bien au profil français de j'ai absolument peur de risque. Donc, et effectivement la liquidité en ce moment c'est un peu compliqué.
C'est combien un compte courant
Ça dépend des forfaits
en moyenne.
Ça va entre 3 et 8 euros par mois, ça dépend du type de compte.
Je crois que les frais bancaires moyens c'est dans les 220 euros par an,
ça veut dire que reprenez les calculs que vous avez donné tout à l'heure. Pour 5 000 euros, vous avez à peu près 100 euros
d'intérêt, mais 190 euros de pouvoir d'achat grignoté.
Ouais, mais si vous prenez un compte courant...
Il ne vous rapporte
pas les 100 euros,
mais
il vous coûte en plus.
Oui, on est bien d'accord.
150 à 200 euros sur l'année.
Et j'ai regardé d'ailleurs, les chiffres sont hallucinants, parce que le premier placement, c'est l'assurance vie, 1800 euros. Le deuxième, c'est les comptes courants.
Oui, c'est le compte courant, c'est énorme.
On doit être à 800 milliards d'encours sur les comptes courants.
On est, je pense, un des pays les moins avisés en termes de gestion financière de nos avoirs.
Parce que les livrets A et LDDS, l'ancien code des vies, ça doit être dans les 440 milliards d'encours à peu près. Les comptes courants, c'est pratiquement le double aujourd'hui. Je rajoute d'ailleurs dans les infos du jour que le LEP, le livret d'épargne populaire, passe de 2,2 à 4,6%. Et Bruno Le Maire se désespère qu'il soit si peu connu, car il y a 7 millions de LEP en France, tandis que 15 millions de personnes y sont éligibles. C'est sous condition de ressources. Pour une personne seule, il faut être en dessous de 20 294 euros par an. Et donc, il annonce qu'il y aura une campagne de communication qui va être lancée sur le LEP. La Commission européenne a démenti les scénarios de Bruno Le Maire et le pic d'inflation. Qui veut y aller sur le pic d'inflation? Parce que moi, j'ai de plus en plus l'impression que c'est la Commission qui a raison et que Bruno Le Maire a dit un peu vite qu'on avait atteint le pic et que c'était en phase de décélération. Emmanuel Le Chypre.
Si ce que vous considérez comme le pic d'inflation, c'est le rythme le plus élevé de hausse des prix, etc. Après, il ne faut pas jouer sur les mots. Parce que c'est effectivement sans doute pas maintenant, mais c'est sans doute aux alentours de l'automne, voire du début.
C'est ce que nous dit Bruxelles, Emmanuel. Ils avaient une prêve à 2,7 pour 2023, ils l'ont passé à 4.
Oui, mais attendez, quand on parle de pic d'inflation, oui, ça se regarde en profil. D'abord, commencez pas à me parler de moyenne annuelle et de me parler de pic d'inflation en même temps. Ça n'a pas de sens. Faut regarder le glissement, regarder le profil de la montagne. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a encore des hausses de prix aujourd'hui dans les tuyaux. Quand vous regardez les prix en amont, les prix à la production, vous êtes encore sur des niveaux de 25 à 35%. Donc oui, il y a encore des hausses de prix dans les tuyaux, mais vous voyez que les moteurs fondamentaux de la hausse des prix, ils ont quand même sérieusement ralenti. Si vous prenez toutes les matières premières, par exemple, elles sont toutes en baisse. Le pétrole, l'argent, l'or, même les céréales, elles plafonnent. On est sur une nouvel équilibre.
Ouais, absolument. Non,
donc, si vous prenez la problématique des porte-containers, par exemple, on voit bien que ça commence aussi le fret à baisser, que les microprocesseurs, on est sur des problématiques d'approvisionnement Dixit, si on en croit à ce que disent des constructeurs automobiles, par exemple, qui sont quand même en train de s'atténuer. C'est tout ça qui a fait exploser les prix. Donc, si vous regardez le rythme d'accélération, jamais dans les mois qui viennent, il ne sera aussi rapide que ce qu'il a été entre l'automne 2021 et le printemps 2022. Donc, oui, évidemment, l'inflation en glissement, elle va ralentir et que le pic d'inflation va ralentir. Après, on sera quand même toujours sur des niveaux de prix qui resteront très élevés. Donc le scénario le plus probable, c'est qu'effectivement on va ralentir assez nettement. Est-ce qu'on retrouvera les niveaux de 1,5% qu'on avait avant? Sans doute pas, mais peut-être des niveaux de 2-3%. Oui, c'est très probable. C'est pour ça que là on joue un peu sur les mots, mais n'oubliez pas que ça veut dire quand même que pour tout un tas de produits, on sera sur des niveaux de prix qui seront beaucoup plus élevés que ce qu'ils étaient en 2019. Donc ça se verra peut-être moins dans les chiffres d'inflation, mais ça se verra dans les chiffres de consommation.
C'est une notion importante. Si on dit que l'inflation cesse d'augmenter, ça ne veut pas dire que l'évolution de la
prix baisse.
Voilà, ça ne veut pas dire forcément dire que les prix baissent. Maintenant, sur tout ce qui est alimentaire ou énergétique, en théorie, c'est quand même des marchés qui, en fonction de l'offre et de la demande, montent mais baissent également. C'est valable notamment pour le pétrole. Parce que tout le monde accuse la spéculation, excepté que quand il n'y avait pas de demande en mars-avril 2020, on était à $30 le baril. C'est quand même bien l'offre et la demande. Donc, Nathalie, la Banque Centrale Européenne doit passer à l'action, là.
Dans ces scénarios-là, c'est ça qui est pris comme acquis. C'est-à-dire que comme on estime qu'en fait, la Banque Centrale Américaine, elle l'a carrément fait, et puis d'autres aussi, enfin voilà, dans tous les pays autour, on a déjà eu des sérieuses hausses de taux d'intérêt. En effet, c'est ce qui va déterminer en fait la fin du pic d'inflation si, en plus, on est dans un ralentissement de la croissance. Puisqu'après, le deuxième relais dans les prix, ce serait d'avoir un emballement de la consommation, en fait, qui peut se produire si on a des prévisions d'augmentation des prix. C'est-à-dire que, voilà, puisqu'à un moment donné, il vaut mieux consommer que de garder l'argent. C'est ce qui se passe dans tous les pays hyperinflationnistes, en fait. Parce que le pouvoir d'achat de la monnaie, en fait, baisse. Enfin, voilà.
Ce qui veut dire que la Banque Centrale Européenne pourrait ancrer des anticipations d'inflation dans l'espoir que ça provoque un rebond de consommation pour essayer d'éviter de trop laminer l'activité malgré ces hausses de taux. C'est ça l'idée ?
Il est certain que si, enfin, faut vraiment qu'elle passe à l'action sur les taux, parce qu'en fait, c'est quand même une des dernières qui a pas vraiment agi de façon déterminée, et c'est quand même bien les liquidités. Bon, je sais que j'apparais toujours comme peut-être la nièce de service qui pense que c'est toujours la bonne.
Croyez encore l'inflation. À la théorie
de Milton Friedman.
C'est la théorie quantitative de la monnaie défendue par l'intelligence.
De toute façon, si vous avez pas plus d'argent, vous pouvez pas plus dépenser. Donc après, je sais très bien qu'il y a des reports dans le temps de consommation. consommation, voilà, je suis pas voilà complètement débile non plus sur ce point, mais il n'empêche que l'inflation, elle vient d'un trop de liquidité qui est créé. Et ce trop de liquidité créé, étant donné que là, on a des corrections sur le marché, que la Banque centrale retire les liquidités, effectivement, dans cette perspective, si ça continue comme ça, eh bien, on a un ralentissement de l'inflation. En tout cas, voilà, il y aura moins de distorsions qu'il y en a eu, et donc forcément, on est bien sur des scénarios qui vont vers la baisse des prix, mais il faut que la Banque centrale européenne, elle se mette à l'action et qu'elle baisse aussi son bilan.
Ah, il faut qu'elle baisse son bilan.
Bah oui.
Mais pour l'instant, c'est parce qu'elle a dit qu'elle ferait.
Non, je sais bien. Pour le moment, elle est. C'est d'ailleurs pour ça que c'est. Elle est en décalage par rapport aux autres.
Ouais, parce que. Alors.
Quoique la Banque d'Angleterre aussi est un peu sur ce même scénario.
La Banque d'Angleterre est un peu sur ce même scénario. Mais toute la question est de savoir si on peut éviter la case récession, en fait. Est-ce qu'on peut réussir à calmer cet emballement des prix
en
évitant la case récession?
Enfin voilà. En général, quand on calme une inflation, ça va rarement avec une absence de récession.
Oui.
Voilà.
Alors aux États-Unis, il y a une forme de certitude. Reviens vers vous, Nathalie, dans un instant, avec l'histoire de l'antifragmentation, ça me passionne. Ce truc.
Non mais si vous voulez, la récession, c'est un événement habituel,
traditionnel, c'est normal de l'économie.
Donc la question,
cycle, vous dirais Jean-Marc.
Non mais la question, c'est pas de savoir si on va la tangenter à -0,1 ou +0,1 près. La vraie question, c'est est-ce que ce qui est devant nous, c'est une récession assez ordinaire, ou bien est-ce que le scénario qui est devant nous, c'est une véritable crise comme on en a connu en 2008 par exemple, c'est-à-dire dans lesquelles, en plus de la récession, vous mêlez une problématique bilan des banques, de bilan de l'immobilier. Est-ce qu'on va avoir, par exemple, quand vous regardez les prix de l'immobilier dans beaucoup de pays, et notamment aux États-Unis, il y a quand même de quoi se poser des questions. Est-ce qu'on va, par exemple, vers une correction très forte de l'immobilier avec tous les effets patrimoine, richesse que ça entraîne? Est-ce qu'on va vers des difficultés pour le secteur bancaire, etc. Et là, on n'est plus du tout dans le même scénario. Donc c'est ça la question, c'est est-ce qu'on va vers une crise, une vraie crise financière, ou est-ce qu'on va vers une simple récession? La simple récession, on la surmontera sans problème. Mais ce qui est quand même gênant, c'est qu'une fois de plus, et là moi je ne suis pas d'accord avec Nathalie, c'est que de toute façon, comme dans la plupart des cas, s'il se passe une catastrophe, ça viendra d'une connerie faite par les banques centrales. Et moi ce qui me choque, c'est qu'on a profondément, et c'est là où je ne suis pas d'accord sur l'analyse uniquement monétariste de l'inflation, on a quand même une inflation qui est le résultat profond d'une insuffisance d'offres sur tout un tas de secteurs. Et qu'on essaye, parce qu'on a une insuffisance d'offres, de trouver une politique qui ne s'attaque finalement qu'au frein de la demande, c'est vraiment la sortie par le bas de ce déséquilibre.
Donc, ce que disait Philippe Aguillon, il défendait la politique de l'offre pour
mais ce, ça, alors, ce que nous connaissons. La réalité, c'est que la politique de l'offre, elle ne peut pas porter ses fruits en quelques mois. Donc c'est quand même ça la priorité absolue. Et après, est-ce qu'il ne faut pas accepter quand même des niveaux d'inflation un peu plus élevés?
Nathalie Janson.
Je voudrais juste rebondir. La politique de l'offre, bon, je ne serai jamais contre cette idée. Bah oui. Voilà, mais l'idée dans l'explication de monétariste, c'est surtout de dire qu'en fait, l'inflation, elle est là, elle était dans les marchés financiers, et maintenant,
elle s'est déplacée.
Voilà, exactement, elle se déplace, parce qu'en fait, les liquidités, elles vont là où elles peuvent aller compte tenu du contexte. Donc, tant que tout allait bien, effectivement, que l'économie était en croissance, eh bien, en fait, là où on allait pouvoir... on allait de l'avant, et donc on allait dans le financement des projets... Voilà. Et là, maintenant, où en fait, il y a des urgences comme les goulots d'étranglement, bah, les liquidités, elles rebasculent là où en fait, elles ont besoin d'être. Donc, c'est tout. C'est pas antinomique hein, comme scénario. C'est normal.
C'est quand même la première fois.
Manuel Le Chypre.
C'est quand même la première fois. Alors, on est sur une période assez courte. Hein, mais c'est quand même la première fois qu'on a à la fois de l'inflation d'actifs.
Oui.
Et de l'inflation réelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à la fois de l'inflation dans Main Street et dans Wall Street. C'est-à-dire que le basculement, il a quand même été spectaculaire et extrêmement rapide. Le contre-choc pétrolier de 1985-86, qui finalement fait disparaître l'inflation de Main Street, immédiatement, l'inflation se déplace et se réfugie vers les marchés financiers. C'est-à-dire que c'est à partir du milieu des années 80 que vous commencez à avoir les grandes périodes d'inflation immobilière, d'inflation sur les marchés financiers, avec chaque fois qu'il y a un excès, une bulle qui craque, ces politiques monétaires qui ne font que créer les conditions de la bulle précédente en inondant de toujours plus de liquidités.
Oui, mais c'est toujours pareil.
C'est une situation inédite.
D'accord, mais bon, effectivement, on sait que dans deux crises graves sur trois, il y a généralement de l'immobilier dedans. On sait qu'une grande période d'inflation, généralement, ça se termine par une récession. Mais c'est toujours le problème du contrefactuel. D'accord, les banques centrales ont inondé. Mais si elles n'avaient pas inondé, S'il n'y avait pas eu whatever it takes en 2012, il n'y avait plus d'euros. Donc, il y a un moment.
Après, certains vous diront, ça aurait été peut-être mieux justement d'avoir ça pour
oui,
savoir.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui.
Donc, je ne vais pas reprendre. C'est peut-être, je la fais peut-être un peu à la Frédéric Farah.
On va peut-être reposer la question. Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, après, il y a des questions existentielles, comme les problèmes de la zone euro, où en fait, est-ce qu'on a bien fait d'avoir une zone euro avec autant de pays, qui auraient peut-être été durement, effectivement, posées et résolues si on n'avait pas le whatever it. Voilà.
Et je sens que cette question va se poser à nouveau.
Oui, oui.
Vous avez vu, alors, on va dire un mot de l'Italie, mais avant, est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'est le système anti-fragmentation ? J'arrive pas à savoir à quoi ça va ressembler. Pour l'instant, c'est une espèce de promesse que de toute façon, je serai toujours là quoi qu'il arrive. Et on a l'intuition qu'en cas de coup dur, et on risque de devoir le tester assez vite avec l'Italie, si Mario Draghi vraiment s'en va, on a l'impression que de toute façon, la Banque centrale sera là pour faire le job et éviter tout défaut.
En fait, on est effectivement dans. On a bien vu ce qui s'est passé avec le Covid. Je pense qu'on a un petit exemple déjà avec le Covid de ce qui est le système anti-fragmentation, puisque une semaine après avoir dit qu'elle n'interviendrait pas sur le spread des taux, Christine Lagarde était intervenue, elle avait retourné en fait la politique et dit que si, elle allait intervenir sur les taux. Donc ça veut tout simplement dire qu'on revient encore une fois sur une des promesses de la zone euro qui était d'acheter des titres d'État selon la cote-part de chaque pays à la Banque Centrale Européenne, et qu'en fait là on achète des titres d'État selon en fait l'état de tension sur les marchés obligataires. Voilà, en fait ce sera ça, c'est-à-dire qu'il y aura à chaque fois qu'on verra des tensions sur un pays, pour éviter qu'elle dégénère, eh bien on ira acheter un peu plus de cette dette de ce pays par rapport à la cote-part qu'on est supposé en acheter.
C'est exactement la doctrine de la Banque d'Angleterre en fait, à peu près.
Oui, sauf qu'effectivement là c'était, enfin on est en train d'enlever tous les cartes, enfin si on veut résumer très synthétiquement, en fait, on revient sur tout ce que l'Allemagne a voulu mettre comme garde-fou pour faire en sorte que la Banque centrale européenne ait un cadre clair qu'elle garde. Donc là, non, on est dans en fait le pragmatique le plus total. Si un pays va pas bien, alors je vais l'aider davantage. En fait, c'était tout ce qu'effectivement la Banque centrale allemande ne voulait pas.
Alors, c'est du whatever it takes au carré. Hein.
Oui.
Ouais, mais total.
Oui, oui, parce que le whatever it takes, c'était pour des situations de crise avec conditions d'accès à un soutien. Ici, c'est simplement qu'on va jauger, on va regarder, on va faire du fine-tuning en fait, du spread de taux. Quoi.
Et donc, ça pose quand même des problèmes considérables. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne finalement manipule le degré de risque associé à la situation économique de chaque pays. C'est-à-dire que vous perturbez quand même considérablement le lien classique entre risque, rendement, etc. Oui. Donc ça veut dire que...
Encore une fois.
Mais là, on franchit encore des niveaux supplémentaires.
Et on est vraiment dans la doctrine très française, du prêteur en dernière sorte de l'État, qui est un concept vraiment très ancré en France et pas du tout ailleurs. Absolument. Et est plein dedans.
À partir de quoi on peut dire qu'un pays a besoin d'être aidé ?
Exactement.
À mon avis, avec Draghi en Italie, alors si l'histoire n'est pas close...
Est-ce que c'est un écart de taux l'écart de taux, il est justifié sur la base de fondamentaux aussi. Oui. Donc est-ce que c'est parce que sur une période courte, l'écart de taux s'écarte de 2, 3, 4 écarts types au-delà de ce qui est la moyenne de l'autre. Je ne sais rien. Enfin,
Même si ce n'est pas une définition académique, c'est la cote d'alerte. Quoi. C'est le moment où vous avez le taux d'intérêt nominal qui va plus vite que le taux de croissance, il y a un moment où ça commence à chauffer. Alors l'histoire n'est pas définitivement écrite en Italie, puisqu'il y a encore le Parlement qui devrait être consulté.
Mario Draghi peut donner cette démission. Réellement.
J'ai du mal à imaginer que la prime de risque de l'Italie va pas s'en ressentir.
Non, mais Mario Draghi, c'est quand même l'homme le plus rentable du monde, si vous voulez.
Rentable dans quel sens ?
C'est-à-dire que jamais Mario Draghi n'a fait... Il n'y a personne qui n'a fait gagner autant d'argent ou économiser autant d'argent à la zone euro que Mario Draghi quand il était patron de la BCE.
Ça fait économiser de l'argent à la zone euro ?
Parce que Mario Draghi, il avait une crédibilité.
Crédibilité,
en tant que président... Qui a rapporté quand même des dizaines de points de base à tous les pays d'Europe.
Dans ce sens-là, d'accord.
Et je peux vous dire qu'il a... Là, vous allez l'avoir, la prime Draghi, sur les taux italiens, et qu'il a fait économiser un sacré paquet de milliards aussi à l'Italie, en tant que Premier ministre, par sa crédibilité. S'il s'en va, ça va coûter très très cher.
Moi, je me souviens...
C'est l'homme qui valait, c'est pas l'homme qui valait 3 milliards, mais il faut beaucoup plus que ça, Mario.
On marque une pause, on pourra dire un mot de l'Italie un peu plus profondément, si vous le voulez, Nathalie Jansson. Je me souviens quand même, c'est quoi? C'est Italie 2011, crise politique, Berlusconi, il est écarté du pouvoir par un coup d'État parlementaire. Le 10 ans italien était monté à 7,5 ou 8 en quelques jours. Hein. On met Mario Monti, qui avait une crédibilité internationale aussi, et tout s'est calmé en l'espace de moins d'une semaine. Ça peut se dégrader très 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 vite, une situation souveraine. On marque une pause.
Moi, j'ai un nom.
Le temps de la pub pour penser. Il y a un auditeur qui me dit, tu parles de la récession, ça va être la stagflation. Il s'appelle Victorien. À tout de suite.